J'écrivais des chansons tristes parce que tu n'étais pas là. Que j'avais perdu ta piste ou que l'hiver était là. Mais j'ai eu de tes nouvelles, il paraît que tu vas bien. Tu es de plus en plus belle et tu aimes le matin. Le malheur est un corbeau, de loin il est assez drôle. Mais son cri n'est plus très beau quand il est sur votre épaule. T'en avais un sur la tienne, tu lui as tordu le cou. Ça ne m'a pas fait de peine, je ne l'aimais pas beaucoup. T'avais perdu le sourire, t'avais peur de presque tout. On savait plus quoi te dire, plus rien n'était assez doux. Mais voilà qu'on me rapporte que t'as retrouvé la joie. Que t'as ouvert grand les portes, on peut parvenir à toi. Je ne sais plus si tu m'aimes. L'hiver a été si long, nous ne sommes plus les mêmes. Je ne sais plus que ton nom. Mais j'ai eu de tes nouvelles, il paraît que tu vas bien. Tu es de plus en plus belle et tu aimes le matin.
C'est une rue barrée, c'est ce qu'on peut pas dire. C'est 10 ans purés dans un souvenir. C'est ce qu'on voudrait sans devoir choisir. La mélancolie, c'est un chat perdu qu'on croit retrouver. C'est un chien de plus dans le monde qu'on sait. C'est un nom de rue où l'on va jamais. La mélancolie, c'est se retrouver seul, place de l'opéra, quand le flic t'engueule et qu'il ne sait pas que tu le dégueules en rentrant chez toi. C'est décontracter, ouvrir la télé et regarder distrait un Zitrone pressé. Parler du tiercé que tu n'as pas joué. La mélancolie, la mélancolie. C'est voir un mendiant chez le conseil fiscal. C'est voir deux amants qui lisent le journal. C'est voir sa maman chaque fois qu'on se voit mal. La mélancolie, c'est revoir Garbeau dans la reine Christine. C'est revoir Charlot à l'âge de Chaplin. C'est Victor Hugo et Léopoldine. La mélancolie, c'est sous la teinture avoir les cheveux blancs. Et sous la parure, faire la part des ans. C'est sous la blessure, voir passer le temps. C'est un chimpanzé aux os d'envers qui meurt à moitié, qui meurt à l'envers, qui donnerait ses pieds pour un revolver. La mélancolie, mélancolie. C'est les yeux des chiens quand il pleut des eaux. C'est les bras du bien quand le mal est beau. C'est quelquefois rien, c'est quelquefois trop. La mélancolie, c'est voir dans la pluie le sourire du vent. et dans l'éclaircie, la gueule du printemps, c'est dans les soucis, voir que la fleur des champs, la mélancolie, c'est regarder l'eau d'un dernier regard et faire la peau au divin hasard et rentrer penaud
et rentrer peinard.
C'est avoir le noir sans savoir très bien ce qu'il faudrait voir entre loup et chien. C'est un désespoir qu'a pas les moyens la mélancolie.
Thank you. dans le cœur qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port de justesse. Il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûre que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux ras au ras des rocs qui se consume. Ô l'ange des plaisirs perdus, ô rumeur d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis avec ses pâleurs de rescousse et le squale des paradis dans le milieu mouillé de mousse. Reviens, fille verte des fjords, reviens, violon des violonades, dont le port fanfare les corps pour le retour des camarades. Ô parfum rare des salons, dans le poivre feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul, poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlight cassés liquides jouent de la castagnette tant qu'on dirait l'Espagne livide. Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent quand on pressent entre voyures, entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où me remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc copain où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meuglent. Cette rumeur me suit longtemps comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sous mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini quand la mer bergère m'appelle.
Ton corps était de fine dentelle, je le broderais par les quatre bouts, et puis m'en ferais des nappes si belles que nous mangerions l'amour à genoux. Si tes yeux étaient de vieilles étoiles, de celles qu'on voit mais qui ne sont plus, j'y regarderais derrière la toile de ce grand tableau de bleu suspendu. Si tes cheveux fous étaient la misaine et que de ton cœur je fisse un bateau tout en remontant le cours de la Seine
que tu serais Paris et moi matelot. Si ton astre noir où je m'illumine était le calice, et si j'étais Dieu, j'y boirais la mort jusqu'à la racine, et puis m'en irais refaire les cieux. Sous les soleils morts, les plaines célestes descendaient un jour dans ton corps éteint. Encore à tes seins modestes un peu de leur flamme, un peu de ma faim, un peu de leur flamme, un peu de ma faim.
Accordéon dans un bistrot qui n'a plus de nom, tellement les gens sont habitués à y danser, à y danser. La comparsita que tu leur joues toutes les nuits pour un salaire qui fait pas de bruit, car ton métier c'est de faire danser, c'est de faire danser Mister Georgina. Que ton biniou brille comme le jour ou qu'il soit noir comme les amours qui sur la piste vont chercher de quoi rêver, de quoi danser. La comparsita, toi tu t'en fous car ton métier c'est de faire danser mais pas de penser. Fais ta série, voilà ta vie, Mister Georgina.
Ta vie.
Les cheveux blancs, ceux qui viennent tard, qui viennent sûrement, tu te retrouveras devant ton buffet pour y danser, pour y danser. La comparsita que tu jouais dans un beuglant pour un salaire qu'a foutu le camp. Les autres dansaient, toi tu bouffais, Mister Georgina. Alors avant qu'il soit trop tard, plante ton magot dans ton placard. Les fourmis, c'est fait pour bosser. Quant aux cigales, elles vont danser. La comparsita. Car la musique fout du métier. Ça chante, ça gueule, ça fait rêver. Et ça s'envole comme les paroles, Mister Georgina.
Ça s'envole. Moi toujours. Né de tango inconnu.
Toi, les frangines qui viennent guincher avant de se faire comparsiter, tu les regardes avec tes doigts, t'as l'œil qui joue en dos, en fa. La comparsita. Au fond, tout ça, toi, tu t'en fous. T'as qu'un copain, c'est ton bignou. Tu joues Schubert, mais c'est plus cher. Mais c'est plus cher, Mister Georgina. Un piano, c'est comme l'horizon, ça joue tout à l'horizontale. Toi, ton piano et ses flonflons, tu les fous à la verticale. Sur comparsita, mais dans la rue tes récitals, des fois ça nous fait un peu mal. Avec ton play, yel en sautoir, Mister Georgina.
Ça nous fait un peu mal. La musique, fini la musique.
En l'an 2000, plus de musique!
Et pourtant, c'était beau.
Mmh.
Tu connais ?
Trois orfèvres à la Saint-Éloi sont allés dîner chez un autre orfèvre. Trois orfèvres à la Saint-Éloi sont allés dîner chez un bon bourgeois.
Ils ont baisé toute la famille,
la mère au nichon, le père au cul,
la fille au con.
Relevez belle votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses. Relevez belle votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le con.
La servante qui avait tout vu
leur dit, foutez-moi votre pin aux fesses.
La servante qui avait tout vu
leur dit, foutez-moi votre pin dans le cul.
Ils l'ont baisé sur une chaise,
la chaise a cassé,
ils sont tombés sans débander.
Relevez belle votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses. Relevez belle votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le con.
Les orfèvres, non contents de ça, montèrent sur le toit pour enculer Minette.
Les orfèvres, non contents de ça, montèrent sur le toit pour enculer le chat.
Chat, petit chat, tu m'égratignes, petit polisson, tu m'égratignes les roustons.
Relevez belle votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses.
Relevez belle votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le con.
Les orfèvres chez un pâtissier entraient pour s'offrir quelques friandises.
Les orfèvres chez un pâtissier
par les petits mitrons se firent enculer.
Puis voyons leur vie pleine de merde,
ils ont bouffé sans guise d'éclair au chocolat.
Relevez belle votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses.
Relevez belle votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le pont.
Les orfèvres sont du canon, se retrouveront tous à la frontière.
Les orfèvres, au son du canon,
en jeu de boulet, lanceront des éperons.
Bandant tous, ainsi que des cannes, à grands coups de vie repousseront les ennemis.
Relevez belle votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses.
Relevez belle votre grand jupon,
qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit.
Radio Libertaire 89.4.
Pour un coup de dent, je t'arrache les yeux.
Cinglé au bout de son trimard, qui se crame les yeux sur un ours en chaleur, du côté de ces nuits où s'enfuit le hasard, avec les doigts collés de foutre et de sueur. Y a toujours un taxi qui se perd dans la brume, avec une reine morte en peinture aux fantômes, et de vieux corbeaux en sans marge du bitume, qui s'en viennent crever au détour de ta zone. Un pingouin qui souffle ses poumons à travers un saxo branché sur du mélon, et des gosses exilés qui maquillent ton nom sur les fiches transit d'hôtels hallucinaux. Y'a toujours un pigeon qui s'envole en fumée dans les couloirs visqueux d'un vieux rêve agonie, et des cigares bandants sur les lèvres flippées de dieux défigurés maquillés par tes nuits. Comment ça jouit, Lilith, les mecs roussis, les dingues de la déglingue qui se flinguent derrière ton zinc. Lilith, Lilith, oh, oh, tu sais comment, comment ça jouit, les mecs complètement stress qui te réclament aux toilettes, une petite galette. Ciao, dodo. Y a toujours une frangine qui se noie dans ses nerfs. Au fond d'une arrière-salle, un vieux box en radio. Et d'autres qui s'en vont respirer le grand air sur une plage à Hambourg, à Belfast ou Glasgow. Y'a toujours un clébard de bar, une jambiste qui largue ses sachetons dans les WC pour dames. Et des gonzes un peu raides aux bras de vieilles groupies qui dégueulent en riant leur canicouana. Ça joue Lilith, les mecs roussis.
N'a-t-il pas été créé à l'image et à la ressemblance des dieux? Or de cela, n'a pas d'essence. L'homme n'a
Tu marches nulle part à genoux sur mes rames, avec des souvenirs à tringler du bourrin. Tu descends le quartier où les mots jouent aux dames et me font voir la cape dans le creux de leurs mains. Mais j'ai perdu l'adresse des autres solitudes à contempler la noaille dans les yeux des passants. Souvent t'en as croisé au bord de l'hébétude qui ne pouvaient dormir sans leur dose de sang. Commence à jouir Lilith, les mecs finis. Les dingues de la déglingue qui se flinguent derrière ton zingue. Lilith, Lilith, oh, oh, tu sais comment. Commence à jouer. Les mecs complètement stress qui te réclament aux toilettes. Tu sais comment ça joue. Derrière ton zinc, Lilith, Lilith, oh, oh, tu sais comment, commence à jouer. Les mecs complètement stress qui te réclament aux toilettes. Une petite canette, une petite fumette, une reniflette, une seringuette, une bonne branlette, et puis
ça joue, ça joue.
Je suis allé voir le spectacle aux abattoirs. Avant de faire la chorégraphie, chaque vache chante la même mélodie. Après elles se mettent à danser au bout d'un grand crochet. Elles font des acrobaties fantastiques. Elles se mettent en quatre pour le public. Tic tac, tic tac, la machine fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. La machine fait tic-tac, tous les 20 secondes, jour et nuit. Une vache s'envole au paradis. Barbac bidoche, qu'est-ce que t'es moche, depuis que je connais les abattoirs. Barbac bidoche, qu'est-ce que t'es moche, depuis que je connais les abattoirs. Chez moi depuis légumes et fruits font la fête de jour et nuit. Les carottes et les oignons blancs dansent sur la table French cancan. Couché sur un pissenlit, deux radis font des mimis. Sur le frigo les artichauts jouent au foot avec un pruneau. J'entends dire une patate douce, lave-toi la frimousse, pamplemousse. Tous les murs murs, tous les planchers sont tapissés de riz comblé. La poignée porte de la cuisine, c'est une petite aubergine. Dans la douille électrique s'allume une courgette magnifique. La frisée et le cresson chantent à deux voix une chanson, la salsifie en queue de pie, joue au piano de Debussy. Joyeusement, pendant ce temps, danse Dinève en tutu blanc. Tic-tac, tic-tac, la machine fait tic-tac. Tic-tac, tic-tac, la machine fait tic-tac. Tous les 20 secondes, jour et nuit, une vache s'envole au paradis. Barbac bidoche, qu'est-ce que t'es moche, depuis que je connais les abattoirs. Barbac bidoche, qu'est-ce que t'es moche, depuis que je connais les abattoirs.
Petite boîte, faites en tiki-taki. Petite boîte, petite boîte, petite boîte, toute pareille. Il y a des rouges, des violettes et des vertes très coquettes. Elles sont toutes faites en tiki-taki. Elles sont toutes, toutes pareilles. Et ces gens-là dans nos boîtes vendent tous à l'université. On les met tous dans des boîtes, petites boîtes, toutes pareilles. Il y a des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires et des avocats. Ils sont tous, tous faits en tiki-taki. Ils sont tous, tous, tous pareils. Et ils boivent sec des martinis, jouent au golf toute l'après-midi. Puis ils font dans les enfants qui font tous, tous à l'école. Ces enfants partent en vacances, puis s'en vont à l'université. On les met tous dans des boîtes et ils sortent tous pareils. Les garçons font du commerce, puis deviennent pères de famille. Ils bâtissent des nouvelles boîtes, petites boîtes toutes pareilles. Puis ils règlent toutes leurs affaires et s'en vont dans des cimetières, dans des boîtes faites en tiki-taki qui sont toutes, toutes pareilles.
Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France, bonjour et bienvenue à tout le monde dans l'émission Médias et Antifascisme. Alors tout d'abord, on tient à s'excuser pour ce retard tout simplement, hein, ce sont des choses qui arrivent. Effectivement, théoriquement, on est censé commencer à 11h30, là aujourd'hui donc il est midi. Et nous commençons à cette heure-ci, donc nous sommes présents tous les deuxièmes vendredis du mois à 11h30 sur Radio Libertaire 89.4 89.4 FM en Ile-de-France, sur internet sur radio-libertaire.org, également sur anarchiste.info/radio/libertaire. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail medias-et-antifascisme@protonmail.com, via nos comptes Facebook et Blue Sky. Alors on vient d'ouvrir un compte Blue Sky, on a gardé notre compte Facebook pour le moment, on verra bien ce qu'on en fait par la suite, mais dans tous les cas pour le moment on reste présent sur ce réseau. Nos deux comptes, donc Facebook et Blue Sky, s'appellent Médias et Antifascisme-Radio Libertaire 89.4 FM en IDF. On est encore présent sur X, hein, ex-Twitter. On verra bien pareil ce qu'on fait de ce compte-là par la suite. Pour le moment, on y est encore. Vous pouvez donc nous joindre par le biais du @media au pluriel, tiré du 8, Antifa au singulier. Il y a un E accent aigu dans Média. Si vous préférez nous écrire, vous pouvez le faire par courrier à l'adresse de la librairie du Monde Libertaire Publico. C'est au 145 rue Amelot, 75011, Paris. Pour soutenir financièrement la radio, vous avez rendez-vous sur radio-libertaire.org dans la rubrique « Nous soutenir ». Vous pouvez y télécharger le bon de souscription et le retourner complété au 145 rue Amelot, 75011 Paris, ou envoyer un chèque à l'ordre de DMC. Alors, pour rappel, hein, notre émission a pour objectif, enfin essaye dans tous les cas, de dénoncer la droitisation, voire l'extrême droitisation des médias, ainsi que la diffusion d'idées réactionnaires sur les chaînes de télévision, stations de radio, sites internet et journaux papier. Aujourd'hui, nous évoquons, alors on a cherché à l'inviter, bon, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, nous évoquons ce que la journaliste Daphné Deschamps appelle en fait la petite armée zemmourienne dans un texte publié sur le site de Politis le 15 septembre 2021. Et aujourd'hui, nous abordons surtout le site internet Magazine Trimestriel et la chaîne YouTube Frontières, hein, qui s'appelait précédemment Livre Noir. Elle a changé de nom l'année dernière, en 2024. C'est un média dirigé par un certain Éric Tegner, ancien candidat à la présidence des Jeunes Républicains, exclu du parti le 11 décembre 2019 pour avoir prôné l'alliance avec l'extrême droite et donc effectivement le Rassemblement National. Nous allons aussi parler au cours de cette émission d'autres médias du type Valeurs Actuelles ou L'Incorrect, qui, selon nous, participe comme frontière donc à la promotion d'Éric Zemmour. Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons donc le journaliste de Blast, Thierry Vincent. Je vais allumer ton micro, je ne sais plus exactement lequel c'est. Thierry Vincent, bonjour à toi.
Eh bien, bonjour.
Bonjour Thierry. Alors, un autre invité, est-ce que tu veux te présenter, mon autre invité?
Oui, du coup, RDHS, militant antifasciste, voilà.
D'accord, très bien. Eh ben, écoute, bienvenue à toi, bienvenue à vous deux. Donc Thierry Vincent, tu as écrit le 18 décembre dernier un article sur le dirigeant donc du Média Frontières, Éric Tegner, qui a publié sur son site deux cartographies de l'extrême gauche, hein, comme peut le faire en fait le collectif La Horde avec l'extrême droite. Et sur ce schéma, alors Frontières notamment, cite Mediapart, Street Press, Politis, mais aussi Le Monde Libertaire, c'est le journal de la Fédération Anarchiste avec qui notre radio partage la librairie Publico comme siège social, hein, au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Alors Thierry, toi tu qualifies Tegner de caliméro de la presse d'extrême droite du fait de sa dénonciation des procédures judiciaires à son encontre et aussi de ses appels aux dons, hein, puisqu'effectivement il est... Alors je sais pas d'ailleurs, c'est peut-être le moment d'en parler tout de suite. Est-ce qu'il est poursuivi ou est-ce que... Parce que j'ai vu qu'SOS Racisme avait porté plainte contre lui, c'est bien ça?
Bah c'est-à-dire que oui, il est poursuivi... donc dans plusieurs affaires, il prétend d'ailleurs être poursuivi par le collectif contre l'islamophobie, qui est un collectif dissous, ce qui est absolument impossible. Je sais pas à quoi il fait référence dans cette affaire, mais il est notamment poursuivi par SOS Racisme, et il dénonce en fait ses poursuites comme étant du harcèlement, des procédures bâillons évidemment pour le faire taire parce que son média dérange, etc. Reprenons un peu ce que dénoncent depuis longtemps certains médias indépendants de gauche ou d'extrême gauche, petits médias qui eux sont victimes effectivement de procédures judiciaires abusives. Mais dans son cas, c'est tout à fait différent parce que on peut pas s'offusquer que SOS Racisme, dont c'est l'objet, poursuive lorsqu'il y a des propos racistes Et les propos, en l'occurrence, qui sont poursuivis, étaient des propos de Marguerite Stern, donc l'ancienne fémène qui a dérivé totalement, non seulement vers la transphobie, mais vers l'extrême droite, la plus crasse, j'allais dire, la plus radicale, où elle tient à peu près les propos suivants, en disant « ce sont toujours... » les mêmes qui agressent des femmes, j'ai pas envie de dire des extra-européens, mais disons des noirs et des arabes.
C'est ce qu'elle dit.
Évidemment, c'est pas moi qui le dis. Bien sûr, évidemment. Non, c'est ce qu'elle dit, et elle ajoute quelque chose d'absolument terrifiant qui nous ramène là à un pur racisme biologique. Elle dit, en gros, hein, et c'est pas seulement culturel. Est-ce que ça serait pas dans leur nature? Elle ironise là-dessus. Donc la nature. Quand on parle de nature, de gens qui soient pas culturels, mais qui soient purement ethniques, on est là dans le racisme biologique tel que théorisé par exemple par Arthur de Gobineau au 19e siècle, qui avait écrit un essai célèbre à l'époque qui s'appelait L'inégalité des races. Donc là, bon, que SOS Racisme dénonce ça et poursuit, j'allais dire heureusement. Mais c'est là où il joue d'une confusion totale. Enfin, oui, il y a des propos, on peut pas tout dire, des propos qui peuvent être poursuivis. À mon avis, c'est légitime. Et là, on est dans ce cadre-là, on n'est pas du tout dans des procédures Bayon. C'est pour ça que j'ai qualifié de Calimero, parce que bon, il va pleurnicher pour être poursuivi, parce qu'il dit en gros que les Noirs et les Arabes sont facilement violeurs, ou il laisse dire ça sur son média. Il est responsable juridiquement en tant que directeur de la publication. C'est tout à fait normal qu'il soit poursuivi. Il n'y a rien là d'une procédure abusive, quoi.
Tout à fait. Pardon, excuse-moi, j'avais pas allumé le micro, effectivement. Alors, quand il dit que le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, le poursuit, en fait, il doit parler du collectif contre l'islamophobie en Europe, qui s'est monté, qui est domicilié en Belgique, en fait, et qui s'est monté suite à la dissolution du CCIF par Darmanin il y a 2-3 ans, je sais plus exactement.
Oui, c'est ça, 2021, il me semble, ou je sais plus, oui.
Exactement. C'était en même temps que les deux lois, la sécurité globale, la lutte contre le séparatisme, c'était vraiment... et puis en plus, c'était... je me souviens un petit peu de cette période. Donc, il doit faire référence, Éric Tegner.
Je pense, mais ça prouve qu'il n'est pas très rigoureux. Quand t'es journaliste, il doit être rigoureux. Il dit, bon, c'est à peu près pareil. Donc, c'est un peu comme... Alors, je crois que c'est pas sa cartographie à lui, mais il y a des cartographies, ils adorent faire des cartographies de l'extrême-gauche, sauf qu'ils sont beaucoup moins bons que la Horde. Hein, ils sont assez mauvais. Quand, par exemple, ils mettent SOS Racisme, mais qui confondent ça avec les antifas et l'antifascisme radical, ça prouve bien qu'ils ne sont pas très, très, très bons là-dessus. D'ailleurs, la cartographie de frontières n'est pas terrible. Moi, par exemple, les blasts, je ne sais pas pourquoi, on est dans les intersectionnels, je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis là. Enfin, on ne savait pas quoi mettre là, c'est un peu la fourre-tout, on ne sait pas trop qui mettre, donc voilà.
Ouais. Thierry Vincent, je suis obligé de faire un tout petit point sur la technique. Alors, tu vois, est-ce que tu peux éventuellement changer de micro? Parce que tu es obligé de tourner ta tête vers moi pour me parler. Le problème, c'est que ça fait que tu parles pas très bien dedans.
D'accord.
Tu vois, là, parce qu'on vient d'entendre.
Et là, ça devrait aller mieux, peut-être.
Je pense, c'est mieux. Pas... Voilà, parce qu'on vient d'entendre un petit Larsen. Faut l'éviter. Et parce que j'ai monté le son de ton. C'est moi qui réalise et j'ai monté le son de ton micro à fond parce que ça, t'es obligé de te tourner vers moi. Effectivement, là, je pense que ce sera mieux.
Là, ça devrait aller mieux, je te mets en face. Ouais.
Voilà, et puis voilà. Bon, là, je pense que ça ira mieux. Donc, oui, nous parlions de la cartographie de l'extrême gauche, alors effectivement, qui est un peu calqué. C'est pas les premiers à faire ce genre de cartographie de l'extrême gauche ou de. Mais on en reparlera, ça. Mais c'est vrai qu'évidemment, c'est une façon de copier la Horde dans son travail de cartographie de l'extrême droite. Alors, tu disais qu'ils étaient beaucoup moins bons parce que vous, Blast, ils vous placent dans les intersectionnels.
Je sais pas pourquoi, oui.
Est-ce qu'ils l'expliquent parce que.
Non, ils expliquent pas. Non, ils expliquent pas. C'est. En plus, ce qui est un peu inquiétant dans leur carte, c'est que. Et vu la rigueur journalistique, c'est ironique, l'absence totale de rigueur, de professionnalisme journalistique de frontières, c'est un peu inquiétant parce que ils mettent, c'est interactif et participatif, et ils disent en gros aux gens, bon, si vous avez des éléments à rajouter, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas du tout rigoureux, et on peut s'inquiéter, oui, de ce que certains lecteurs pourraient rajouter comme information tout à fait fantaisiste ou inexacte, quoi.
Oui, effectivement. Alors, Ah oui, voilà. Donc leur cartographie de l'extrême gauche, déjà pour commencer, il y en a deux. Effectivement, il y en a une qui est censée être interactive, en tout cas, effectivement, qui bouge en fait, qui est mouvante. C'est pas une cartographie fixe, mais bon, après ça, c'est leur façon de styliser. Ils ont, mais en fait, la deuxième cartographie, qui elle, c'est un plan fixe, effectivement, comme on peut trouver sur la Horde. C'est dans leur numéro, leur premier numéro, me semble-t-il, le premier numéro de leur magazine trimestriel. Mm-hmm. Et les explications doivent être dedans, dans le numéro. Je t'avoue que je ne l'ai pas acheté, déjà vu le prix que ça coûte, et puis au-delà de ça, j'ai pas.
C'est cher, oui, c'est cher.
Oui, c'est cher, bah, parce que c'est un magazine à très faible tirage, c'est un peu comme Valeurs Actuelles, sauf que, et ça c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui, sauf que c'est un média qui fait du bruit, il faut être très clair. En ce moment, Eric Tegner, il est quasiment tous les soirs sur CNews, là, dans Face à l'info avec Christine Kelly, et donc ça lui donne une audience, un aura qu'il ne mérite pas, on va dire ça comme ça. Et Valeurs Actuelles fait pareil depuis quand même un certain nombre d'années, depuis notamment la reprise par Privinvest. C'est la stratégie, mais bon, bien avant, on peut, voilà, Valeurs Actuelles, c'est pas d'hier que c'est un média d'extrême droite, mais effectivement cette stratégie de comment on appelle ça, faire du bruit pour vendre, en clair, justement parce que c'est des magazines qui vendent pas énormément, effectivement, bon, ça fait partie de la stratégie. Quand tu parles de Calimero, de la presse d'extrême droite, en fait, ce que tu pointes comme paradoxe, c'est le fait qu'Eric Tegner, parce qu'il fait des appels aux dons, effectivement, il cherche à quand même ramasser de l'argent pour ce qui lui attend, pour les procédures qui l'attendent. Ce que tu montres quand même, c'est qu'il s'entoure d'amis assez puissants, Eric Tegner. Je vais citer quelques noms. On a Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. On a Loïc Le Floch Prigent, ancien président directeur général d'Elf Aquitaine. Il y a l'avocat Thibault de Montbrial. Il y a le romancier Boualem Sansal, qui est en ce moment en prison en Algérie. On en entend beaucoup, beaucoup parler, jusqu'au Parlement européen même. Il y avait parmi ses amis, ses anciens amis, François Devoyer, hein, candidat Rassemblement National aux élections législatives de 2017, président du cercle Audace, hein, également, qui, selon le site L'Opinion, que tu cites dans ton article, regroupe des entrepreneurs qui cherchent à rapprocher les Républicains et le Rassemblement National. Donc là, voilà, on en a un petit peu parlé, mais pourquoi est-ce que, d'après toi, Eric Tegner choisit cette stratégie de victimisation, et surtout, quelle cohérence avec l'apport de 700 000 euros qu'il a reçu, auquel contribue par exemple Jérôme Verny, député Rassemblement National.
Plus on a d'argent, mieux c'est, hein, je veux dire, voilà, c'est il a beau avoir des amis puissants, bon, bah, s'il peut aussi grâce aux collectes et aux dons des gens, en avoir encore plus pour développer son activité, lui évidemment il préfère, mais là où je trouve que c'est un peu limite, c'est qu'il se présente vraiment, c'est pour ça que j'ai dit Calimero, hein, qui était ce petit personnage qui se plaint tout le temps dans un vieux dessin animaux qui est personne ne m'aime, etc. C'est que il fait vraiment, il prend une tête de, on croirait un pauvre malheureux, quoi, qui est sans le sou. Il copie en cela la presse indépendante qui a émergé ces dernières années, de gauche, etc., qui elle a vraiment, alors Mediapart c'est un peu à part parce qu'ils ont un système d'abondement qui fonctionne, donc je pense pas qu'ils aient de problème financièrement, je pense qu'ils sont relativement à l'aise, c'est les plus anciens, mais sinon, bon, bah, Blast où je travaille, ou Street Press ou d'autres, ou Reporter par exemple, qui produisent donc des choses gratuites, qui ne vivent que des dons, eux ils ont réellement, effectivement, ils ne vivent que de ça. Il n'y a pas à Blast ou dans les médias que j'ai cités des mécènes derrière puissants qui travaillent dans la tech à Londres, par exemple, comme les amis de Tegner, et qui sont capables, en quelques jours, semaines ou quelques mois, de lui apporter 700 000 euros. Il vient de recevoir quand même 700 000 euros. 700 000 euros, je sais pas, ça doit être le budget, enfin, j'en sais rien, le budget annuel de Blast, mais c'est peut-être ça, peut-être plus, peut-être moins. Enfin, c'est quand même énorme. Et par rapport à ça, il est dans la complainte permanente. Mon Dieu, on me poursuit pour me faire taire, on le poursuit pas pour le faire taire. Il n'y a aucune information qui dérange dans Frontières. C'est pas l'information qui dérange. Ce qui dérange, c'est l'anathème, les amalgames, les fausses informations, les choses comme ça, les gens désignés à la vindicte comme étant des traîtres, comme traîtres à la patrie, etc., au pays, comme les récemment des avocats donc qui défendent des migrants ou des gens qui n'ont pas de papier. Il a même fait, je crois, même un podium, numéro 1, monsieur Machin, il a je sais pas combien de dossiers, etc. comme si d'ailleurs, on peut être avocat de sans papier de migrants sans forcément être entre guillemets militant pro-migrant ou je ne sais quoi. C'est que n'importe qui, y compris Monsieur Tegner, y compris le pire fasciste, a droit à un avocat. C'est tout. Mais ça a l'air de l'offusquer. C'est ça qui est gênant en fait chez Frontières. C'est des fausses informations, des informations non vérifiées
à longueur de temps.
Moi, j'ai un exemple, par exemple, en tête qui est absolument scandaleux. Donc, c'était un numéro qui était fait, bon, sur grande enquête sur l'ultra gauche, etc. Et il y avait, alors, au milieu de ce numéro, il y avait un type, donc d'origine, un nom à consonance musulmane, un type. Donc, on donne son nom, etc. On le présente comme un monsieur qui est fiché S, qui vient de sortir de prison parce qu'il vient d'effectuer sa peine et qui est en train de préparer un attentat en disant, mon Dieu, c'est scandaleux, on laisse faire. Alors d'abord, je doute fortement de cette information parce que je crois pas qu'on soit dans un climat de laxisme vis-à-vis du terrorisme islamique tel qu'on laisse des gens préparer des attentats tranquillement, que Tegner le sait, mais pas la police ou elle laisse faire, j'y crois pas une seconde évidemment. Mais en plus, vous donnez le nom d'un type en disant ce mec-là, c'est un terroriste, il s'appelle Monsieur Machin, alors on donne quand même pas son adresse, mais enfin bon, pourquoi pas, hein. C'est quand même des trucs complètement irresponsables. Et c'est ça qui est gênant, parce qu'en fait, Éric Tegner ne sort aucune information, ne sort aucun scoop, ne sort aucune information à mon sens, d'intérêt public, pour le public, etc., qui dérange qui que ce soit, en fait. On va être clair, c'est un média de propagande, c'est pas du journalisme.
Mais ça, c'est un vrai travail de militant, en fait.
C'est un travail de militant,
et en fait, ils effectuent un découpage du travail militant. C'est-à-dire, Frontières et d'autres journalistes de l'extrême droite se divisent le travail, et surtout Frontières a un travail de targeting. C'est-à-dire surtout leur dernier numéro, là je l'ai sous les yeux, invasion migratoire, les coupables. Donc il y avait les avocats, il y avait les associations, il y avait tous les différents acteurs qui pour... Les médias aussi, bien sûr, elles et eux sont responsables de l'information. Et du coup, ils essayent de matérialiser une structure qui ferait partie d'un complot de la cinquième colonne typique de l'extrême droite. Pour ensuite que d'autres militants plus radicaux en cours de radicalisation, ou même des électeurs et des électrices, fassent l'autre partie du travail, qui soit la pression au niveau légal, donc par du mailing, par du contact, par du commentaire sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet, et voir pour d'autres militants d'extrême droite, de visibiliser des figures et de les diaboliser pour en faire des cibles pour plus tard. Sachant qu'en plus, c'est quand même des gens qui se rendent sur place et qui ont des actions qui sont des actions militantes sous couvert de la loi de 1880, l'information de la presse, qui ont un effet assez dévastateur au niveau médiatique. On pense à la Gaîté Lyrique récemment où ils se sont rendus. On pense à l'affaire de la petite Louise récemment décédée où, d'après ce que j'ai entendu à vérifier, un des journalistes aurait fouillé dans les poubelles et dans les tweets de la sœur de la petite défunte. Donc pour...
Ah oui.
Ouais, c'est à vérifier bien sûr et tout. C'est Mourad Guichard qui l'a dit dans une de ses dernières émissions.
Qui est en général assez fiable.
Mais du coup, tout ce travail qui est fait en amont de découpage, c'est en même temps dans leur stratégie économique, c'est-à-dire de se victimiser, comme vous dites si bien, pour inciter aux dons, mais aussi dans leur stratégie médiatique pour renforcer cet effet de victimisation qui est à la base de leur modèle en même temps de propagande et en même temps de financement.
Oui. Bah, c'est vrai que ils reprennent, c'est pas trop mal fait hein, d'ailleurs quand tu vois leur une, ils reprennent des unes un peu choc. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais comparer, mais enfin c'est pas Paris Match, c'est pas dans le People, mais c'est des unes très chocs.
Un peu canard.
Ouais, un peu choc, un peu provocatrice, qui se veulent transgressive, je sais pas comment dire, en reprenant un peu ces codes-là, mais avec effectivement dans un but de pure propagande. Et c'est ce que tu dis, c'est vraiment désigner des cibles. Et c'est en cela que c'est en ça en fait que Frontières dérange. C'est pas dans les pauvres informations qui sortent, hein, franchement, qu'il y a pas besoin d'aller faire un grand reportage dans le Sahel comme fait Eric Tegner, qui, bon, alors, il adore se déguiser un peu en tant que reporter. Je m'étais un peu moqué de lui gentiment, qu'il le prenne pas mal, mais enfin bon, c'était un peu ridicule quand même. Où il va dans le Sahel et il n'y a pas besoin d'aller faire un grand reportage dans le Sahel pour savoir que c'est des pauvres malheureux qui viennent chez nous et qu'effectivement, ils ont envie de. Enfin voilà, et que leur but c'est de s'installer en France, y compris clandestinement. Il n'y a pas besoin de. Mais les informations qui sortent, en vrai, il n'y a vraiment pas. Il n'y a pas grand chose, quoi. Et le grand fantasme, en fait, d'Éric Tegner, je pense qu'il va faire de la psychanalyse de bazar, mais il y a un truc marrant, c'est qu'il y a le fantasme, il voudrait être l'anti-Plenel, quoi. Oui, il voudrait être le Mediapart de droite, sauf que je suis désolé, il n'y a pas une info en tant qu'information de Frontières qui a été reprise par le reste de la presse, parce qu'elle ne vaut rien, non pas parce qu'on les ostracise. S'il sortait vraiment un scandale, ça serait repris, même venant de lui, mais il n'a pas son affaire Cahuzac, il l'aura pas, enfin, il n'est pas.
Ils influencent le débat public un peu sur le modèle de Mediapart. Enfin,
alors, ils influencent le débat public, mais je veux dire, il n'y a pas d'information, de scoop repris en tant que tel de Frontières. Ils n'ont pas sorti une seule affaire Frontières. Trouver la liste des avocats qui défendent des migrants, c'est pas très compliqué. Suffit de recenser un certain nombre d'affaires. Enfin, je dirais pas de. Alors en plus, avec un. Je suis désolé, je pense pas qu'il écoute Radio Libertaire, il le prendra peut-être mal, mais quand tu vois leur. Ils ont quand même leur jeune reporter, leur jeune recrue, Jordan Florentin, leur petit reporter de terrain, qui, je suis vraiment désolé, et attention qu'il se calme, j'appelle pas du tout à la violence. La violence me répugne, mais enfin, il a quand même vraiment une tête à claque. Et c'est ce qu'il cherche, en fait. Non, mais c'est ce qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il va faire de la provoque. Si moi ou toi, on va à Barbès avec une caméra, tu la fous dans la tronche des mecs qui sont en train de vendre des tickets de métro, de la contrebande de clopes et tout, tu leur fous ça dans la gueule, c'est sûr que tu vas pas être bien accueilli. Ouais, bien mais sûr. Je dirais même moi, qui vend rien de contrebande, qui fait rien d'illégal, je vais à mon métro le matin acheter mes croissants, pas bien réveillé, j'ai un gars qui me fout une caméra en pleine tronche et qui me demande pas mon avis, forcément, je vais pas très bien le prendre et je vais probablement m'énerver. Et donc, lui, il fait ça, il provoque, et puis après, il dit, regardez, à Barbès, c'est l'islamistan, je sais pas quoi, on n'est plus en France, et effectivement, il a des propos, il recueille des réactions hostiles, ce qui est tout à fait normal. C'est pas du journalisme, ça, ou alors il va...
Il crée l'information, en fait.
Il crée l'information, il provoque, il rêve qu'on le tape dessus ou qu'on le menace de le faire taper dessus, il dit, regardez, il a menacé de me taper dessus, oui. C'est ce qu'il a eu récemment dans l'élection de... Enfin, la non-élection, plutôt la campagne électorale. Saint-Jean de Louis Boyard. Bon, il va y avoir des militants en disant je suis frontière, évidemment, il se fait traiter de facho, hein, qui ne parle pas très bien, qui dit tu t'en vas ou je t'en mets une, ça ne veut pas dire qu'il l'aurait fait en plus. Et il dit regardez, menace physique, il va voir le directeur de campagne. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas de l'information. C'est du rien, en fait. Moi, je peux le faire aussi. Je vais n'importe quoi. Si je vais au siège du RN et que je les provoque et qu'il y en a un qui me fout une claque et qui menace de m'en faire une, c'est pas une information. C'est du rien, quoi. Enfin,
c'est du spectacle.
Mais là où tu as raison, c'est que en termes d'influence, ça c'est tout à fait différent parce qu'ils choisissent des thématiques. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai écrit plusieurs fois et il y a longtemps. Et c'est ce que m'avait dit une fois que j'avais interviewé l'horrible, entre guillemets, Damien Rieu, qui était donc le porte-parole de Génération Identitaire, qui est un influenceur maintenant d'extrême droite, probablement le plus grand, sur X, etc. Qui était sur la liste de Zemmour, qui est proche de Marion Maréchal. Qui, lui, il y a 10 ans, il avait théorisé ça. Alors, je pense que les auditeurs de Radio Libertaire connaissent Gramsci. Et lui, il reprenait ça. Et il disait, on fait du gramscisme, en fait, de la métapolitique.
C'est pas lui qui a théorisé ça en premier.
Non, c'est pas lui qui a théorisé. Il reprend Gramsci, je veux dire. Non, il reprend Gramsci. Et il dit, moi, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est la baston, ça, c'est pas le truc qui l'intéressait. Oui. Mais il veut faire rentrer des mots. Le mot grand remplacement est presque rentré dans le langage courant. Oui. Le mot remigration, c'est en train d'arriver. On l'a vu apparaître sur un bandeau de LCI, par exemple, il n'y a pas très longtemps, sans que ça n'offusque personne. C'est pas un mot du dictionnaire, c'est un mot, en fait, il faudrait dire déportation massive, c'est exactement ça que ça veut dire. Et Frontières, ils sont exactement là-dedans, ils font rentrer des thématiques, par exemple, le numéro c'est submersion migratoire ou invasion migratoire, c'est repris par le Premier ministre, qui est un centriste normalement, qui est pas un militant d'extrême droite, qui est pas a priori, qui a pas de sympathie pour l'extrême droite, quand il est coupable, les coupables, tu fais rentrer dans la tête des gens qui auraient des responsables. En fait, il y a des traîtres. Il y a des traîtres à la nation, c'est ça que ça veut dire. Il y a l'anti-France, quoi. Et petit à petit, il te fait rentrer ça. Voilà, submersion migratoire, maintenant, c'est... ou invasion, bon, oui, Bayrou dit submersion, c'est à peu près
la même chose.
Ça rentre dans le langage courant, et petit à petit, ça rentre dans les têtes. Et c'est ça, la bataille que la gauche ou les antifascistes, d'une manière générale, ont pour l'instant perdu, c'est pas perdu définitivement, mais qu'on a perdu, hein, il faut bien le dire, c'est la bataille des mots. Ça a l'air d'être un peu théorique et fumeux, ce que je dis peut-être, mais c'est super important. C'est non, la subversion migratoire, n'employons pas ce mot, ça s'appelle l'immigration. Il n'y a pas de subversion migratoire. Submersion, c'est-à-dire que ça déborde, ça déborde pas. Quand on est à,
les chiffres sont stables, 60 000 par an,
c'est à peu près stable. Alors ils vont te dire, oui, mais il y a des naturalisations, il y a un nombre à peu près constant, enfin depuis très longtemps.
Ils vont prendre les échanges universitaires,
on mélange des carottes et des navets, bon voilà. Mais il n'y a pas aucun démographe qui va dire sérieusement qu'il y a une submersion migratoire. Il peut dire qu'il y a peut-être une immigration importante. Il peut dire même, il y en a qui peuvent le critiquer, mais le terme submersion migratoire n'est pas adapté. La remigration, c'est quand même un terme inventé de toutes pièces par les identitaires à l'époque, par Damien Rieu et compagnie, qui n'existe pas dans la langue française, qui veut dire faire rentrer dans leur pays d'origine tous ceux qui sont d'origine immigrée, y compris les Français, hein, d'origine immigrée, rentrer dans le pays de leurs ancêtres. Enfin bon, ça peut aller très loin. C'est ce que j'appelle un projet de déportation massive. Il n'y a pas d'autre mot. Mais petit à petit, il faut rentrer ça dans les têtes. Et effectivement, ce qui a tout changé... Si on reprend, il y a 15 ans, il y avait F de Souche, il y avait quelques sites comme ça, mais c'était en vase clos, vraiment, avec les 300 les plus radicaux, 300 ou 3000, j'en sais rien. Mais il y avait pas, ça sortait pas de ce circuit fermé. Maintenant, bah, t'as une caisse de résonance extraordinaire qui est CNews, où effectivement, Tegner, c'est quasiment tous les soirs, il est, chaque numéro de Frontières est célébré comme ayant fait un scoop incroyable, en dénonçant je ne sais quoi. En fait, quand tu regardes, il n'y a pas grand chose. Jordan Florentin, leur reporter, aussi, et on rediffuse ces vidéos sur CNews, première chaîne d'info de France. Ils ont un là, on a
entre guillemets d'info, hein, parce qu'on
non, c'est pas une chaîne d'info, tu as tout à fait raison.
Chaîne d'opinion d'après Reporters sans frontières,
moi, c'est une chaîne de propagande, on va dire, ce que je veux dire, mais effectivement, tu as raison de me reprendre. C'est pas une chaîne d'info, faut que j'arrête de dire ça, moi aussi, faut que je fasse non, c'est une chaîne d'ailleurs, ce que j'écris, moi, chaîne d'extrême droite ou chaîne de propagande, enfin, ce n'est pas une chaîne d'info, c'est dans le label chaîne d'info, c'est bien pour ça que ça aurait pas été illégitime, à mon sens, de lui retirer l'utilisation de sa fréquence. Mais,
oui, comme c'est le cas pour C8, qui nous quitte fin février.
Oh mon Dieu.
plein de courage.
Je t'invite, camarade, à parler plus près de ton micro.
Oui, ouais.
Thierry Vincent, d'accord. Ça va, mais camarade...
Non, c'est moi. En fait, ils habituent les gens à un langage pré-génocidaire, en fait. Souvent, c'est un peu dur, en tout cas, pré-remigration, donc pré-déportation. Et ils le banalisent, en fait. Ils jouent le rôle d'avant-garde révolutionaire, mais pour l'extrême droite.
C'est ça, d'avant-garde réactionnaire, si on veut, ou contre-révolutionnaire.
Contre-révolutionnaire. Ils banalisent... Alors, sans aller, ça leur ferait peut-être trop plaisir d'être appelé la radio 1000 collines de France. Mais
j'ai fait cette comparaison, moi, d'ailleurs. J'ai eu peur d'être poursuivi, il l'a pas fait. On fout, il y a prescription maintenant, c'est il y a 3 mois. Les radios 1000 collines, si, moi, je suis. Alors, évidemment, ils n'appellent pas au meurtre directement, on est d'accord.
Bien sûr.
Mais symboliquement, il y a quelque chose comme ça. Moi, j'avais dit, c'était quelque part entre. Enfin, même CNews, hein, moi, j'avais écrit, je crois, CNews, quelque part entre Je suis partout et Radio 1000 collines. Enfin, effectivement, il y a
d'habitude,
peut-être
les gens...
dire aux auditeurs ce que c'était que Radio Mille
Collines. La radio Mille Collines, c'était la radio au Rwanda pendant le génocide au Rwanda. Les génocidaires au Rwanda avaient le poste de radio dans une main et la machette dans l'autre. Et du coup, en permanence, j'ai oublié les financements, mais elle était financée et tout par les génocidaires. Et tous les jours, elle passait des informations, elle excitait au génocide. Et les gens tués avec la radio dans une main et la machette dans l'autre.
C'est ça, moi j'avais entendu des extraits où on disait que les Tutsis étaient des cafards, exterminés, etc. Oui. Enfin, donc évidemment, on n'en est pas là, mais symboliquement, il y a quelque chose comme ça. Ils désignent
les ennemis.
Parce que, à mon avis, ce qu'on a du mal à comprendre, quand on n'est pas dans leur logique à eux, quand on n'est pas d'extrême droite, c'est que eux, pour eux, ils sont en guerre. C'est ça la logique. Ils sont en guerre, ils sont déjà en guerre. Pour eux, la guerre civile est déjà là. Il faut éventuellement l'accélérer un petit peu. Mais en fait, presque toute l'extrême droite est ce qu'on appelle accélérationniste, c'est-à-dire voulant accélérer un mouvement qui considère comme inéluctable vers une guerre civile, parce que autant provoquer la guerre civile maintenant, tant qu'on est encore capable de la gagner, dans, oui, leur logique à eux. Parce qu'après, il y aura le grand remplacement, ce sera trop tard, etc. Et en fait, ils sont dans cette logique-là. Il y a, d'ailleurs, ils s'appellent eux-mêmes patriotes entre, oui, eux. Ils disent même plus nationalistes, ils disent patriotes, c'est-à-dire je défends ma patrie, ma terre. Patriote, en fait, au départ, c'est un
terme de gauche.
C'est un terme de gauche, qui est issu de la Révolution. Enfin bon, pour moi, c'est juste le terme poli pour dire national. Ils sont même patriotes, c'est un truc qui ne me parle pas. Mais oui, mais au départ, c'était ça, ouais. Et ils reprennent ce terme parce que pour eux, il y a deux camps, ceux qui défendent la patrie et ceux qui sont les ennemis de la patrie. Exactement. Où là, bah, tu mets tous leurs ennemis à eux, en fait, tout ce qui conteste leur vision du monde, c'est-à-dire les gauchistes, les islamistes, tout ça mis dans un paquet. Vous savez, vraiment, ça n'a rien à voir, les gauchistes et les islamistes. Mais eux, c'est pour ça qu'ils mettent islamo-gauchistes, c'est tout ce qui est, selon eux, leurs ennemis et les ennemis de la patrie, de l'intérieur, voilà, qu'ils appellent effectivement, ils disent pas on va les éradiquer, mais qu'ils appellent à lutter, contre eux, quoi. D'ailleurs, c'est, en fait, ils donnent un peu le signal, mais chaque fois, les cibles désignées par frontière, et c'est là où c'est extrêmement grave et totalement irresponsable, j'allais dire criminel, faut pas que je m'emporte, mais en tout cas, très 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 grave, c'est que quand ils désignent des cibles, ils désignent des cibles, c'est pas, on peut se dire c'est pas très grave, sauf que par exemple, les avocats en question, qui sont des avocats qui ne sont pas, pour beaucoup, des avocats militants qui sont fait un nom là-dessus, simplement, ils défendent effectivement des migrants. Au passage, on les accuse de se goinfrer avec l'aide juridictionnelle. Quand tu vois ce que ça rapporte aux avocats, l'aide juridictionnelle, il y a 100 ou 200 euros sur un dossier. Enfin, je sais pas, c'est tout à fait ridicule. C'est au contraire, les avocats, ça les emmerde, en fait, quand ils ont à faire l'aide juridictionnelle, parce que par rapport à un boulot d'avocat où tu te prends 100 euros de l'heure, évidemment, c'est vraiment pour eux une perte financière. C'est pas du tout rentable financièrement. Donc non, ils se goinfrent pas avec l'argent public de l'aide juridictionnelle. Mais ces avocats-là, qui simplement font leur travail d'avocat et défendent des gens qui méritent d'être défendus comme n'importe qui, sont désignés à l'indignité populaire, et après, ils reçoivent des menaces de mort.
C'est ça.
C'est quand même ça qu'il faut voir.
Pression médiatique, pression politique.
Pression politique, oui, des cinglés qui t'appellent chez toi, qui te menacent de mort. Et alors, c'est toujours les mêmes. C'est marrant, le vocabulaire de ceux qui. Des cyberharceleurs sur la même chose, collabo. Alors, ça, ils adorent reprendre, inverser le terme, oui. collabo des islamistes. T'es un traître, le jour de la victoire, on s'occupera de toi, etc. Ils sont vraiment dans une logique de guerre où un jour ils arriveront au pouvoir et un jour tous ces ennemis qui ont été auparavant désignés par Frontières, mais par d'autres, CNews fait exactement la même chose à une plus grande échelle encore, seront ceux à mettre sur le peloton d'exécution, un peu loin, mais en tout cas, dont il faudra s'occuper et mettre hors d'état de nuire immédiatement. Quoi. C'est vraiment ça. Et c'est en ça que, parce que Radio Mille Collines, ils indiquaient aussi des cibles là-bas, tel village, machin, tel type, tel. Et c'est là où c'est un peu comparable quand même.
Oui, c'est d'accord.
Alors, moi, je voulais rebondir sur plusieurs choses que vous venez de dire. Déjà, quand on parlait tout à l'heure, quand vous parliez tout à l'heure de Frontières qui va faire du spectacle à Villeneuve-Saint-Georges en mettant en scène plus ou moins une l'agressivité, on va dire ça comme ça, mais bon, de l'agressivité qu'on peut considérer comme logique au vu de ce que Frontières essaye au vu de ce que Frontières essaye de chercher, en clair. Par exemple, il y a un autre pseudo-journaliste qui s'amuse à faire ça, qu'on a vu ces derniers jours à la Gaîté Lyrique, là où d'ailleurs, peut-être que tu peux expliquer ce qui se passe par là-bas dans les grandes lignes.
Depuis le 11, alors je vais peut-être me tromper, le 11 décembre ou le 11 novembre, je ne me souviens plus, il y a une occupation par le collectif des jeunes de Belleville, donc des jeunes mineurs non accompagnés, noirs et arabes, quoi, sans papier. Qui, du coup, avant occupait la maison des métallos et qui maintenant occupe le théâtre La Gaîté Lyrique à Paris, en attente d'une régularisation, enfin, pas d'une régularisation, mais d'une mise à l'abri. Oui. Ça représente entre 270 et 300 personnes, pour la plupart, enfin, mineurs. Et du coup, ça s'est intensifié depuis 2 semaines. Mais il y a vraiment la venue de différents collectifs fascistes. Oui. Donc il y avait les natifs qui sont venus à une des manifestations il y a 1 semaine et demie, 2 semaines et demie. Reconquête Tract, le média homo-nationaliste avec des méthodes très particulières, on va dire, pour rester dans la légalité, Eros est aussi venu. Mettre la pression, notamment au théâtre, filmer des images, notamment Frontières, qui est venu à plusieurs reprises pour filmer les jeunes et des camarades, que ce soit du collectif des jeunes ou des antifascistes, ont repoussé pacifiquement les différentes personnes, notamment en leur faisant supprimer les images, parce qu'ils viennent vraiment filmer le visage des gens, des militants et des jeunes, pour ensuite pouvoir les diffuser largement, sans même les flouter. Donc il y a tout un souci de la mise en danger de la vie d'autrui, enfin donc vraiment de ce côté-là. Et en plus, il y a vraiment ce côté frappe médiatique qui pousse à la pression, que ce soit sur la préfecture, sur la mairie, sur le théâtre et sur le pouvoir public, avec une exagération ou différentes choses comme ça, pour dramatiser la situation, toujours exagérer la menace, pour exagérer aussi la réponse.
Oui, bof, oui, je sais pas, moi, enfin, c'est bien, je crois que l'histoire est très bien résumée. Effectivement, ils vont à la Gaîté Lyrique, je pense que pour eux, c'est assez idéal comme théâtre, sans mauvais jeu de mots, mais parce que t'as un peu tout ce qu'ils détestent, les intermittents du spectacle qui évidemment vivent de l'argent public en foutant rien, hein, c'est ce qu'ils pensent eux, grosso modo, si je caricature, qui sont tous un peu gauchistes, qui sont woke, qui sont machin, et qui aident des mineurs isolés, qui évidemment sont pas vraiment mineurs et sont venus uniquement pour emmerder les Français, bouffer le pain des jeunes Français. Donc pour eux, c'est la cible idéale, concentrée en un petit endroit, évidemment. Qui vont s'en emparer et face à des publics fragiles, une situation quand même tendue, c'est une occupation illégale et tout ça, quand t'arrives, tu provoques un peu, t'es un peu intrusif, tu filmes les gens sans leur consentement, forcément tu vas avoir des réactions parfois un peu agressives, voire violentes, mais ça c'est exactement ce qui cherchaient pour ça. Enfin, je vais pas appeler les gens, j'ai rien à dire, et je suis pas du genre pacifiste bêlant à dire non, il faut toujours la peine et faut aussi se défendre. Mais je pense que face à eux, faut vraiment, et c'est pas facile, mais faut vraiment essayer de, faut pas leur répondre, faut rien faire, rester placide, ne jamais commencer à répondre, parce que sinon, après une réponse va m'emmener une autre, etc. Évidemment, on rentre dans le dispositif et on va finir évidemment par s'énerver, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Il faut juste pas répondre et surtout pas céder à la provocation, parce que ils vont montrer juste l'image. La personne s'énerve en disant « Ah, regardez », etc. C'est un processus assez basique, primaire, vieux comme le monde, hein, mais qui marche et dont ils abusent, c'est absolument incroyable, quoi.
Très bien. Pardon, j'avais pas allumé mon micro. Alors, en fait, ce que je voulais dire, parce que il y a plusieurs choses qui ont été expliquées. Quand toi tu parles des natifs, camarades, en fait, il s'agit des anciens identitaires, de génération identitaire. Voilà. Mais sur Paris, parce que génération identitaire, quand ça a été dissous, ça s'est décliné en tout un tas de collectifs selon les villes, selon les régions. Et à Paris, il se trouve qu'ils se font appeler les natifs. Bon, ok, très bien. Quand tu parles du collectif qui s'appelle Eros, faut rappeler éventuellement de qui il s'agit. Éventuellement.
Très rapidement. C'est une chaîne YouTube principalement. Donc c'est des jeunes garçons homosexuels qui ont toute une logique de faire porter un peu comme le collectif Nemesis la responsable de l'homophobie aux personnes considérées comme non blanches qui seraient issues d'une culture plus réactionnaire que celle qu'on a en France qui font des choses à la limite de la manipulation. Par exemple, j'avais regardé une de leurs vidéos où ils vont aller interviewer ils vont sur des applications de en particulier un d'entre eux va sur des applications de rencontres. Puis il va commencer des débuts de relation un peu embarquées avec des jeunes hommes plutôt noirs ou arabes pour essayer de leur faire dire des choses, enfin voilà, des choses un peu complexes. J'ai plus le cas exact en tête, donc je suis prêt, non, on va utiliser le conditionnel. Mais du coup, il y a toute une constellation, on peut peut-être rebondir sur ça, c'est qu'il y a toute une constellation de médias indépendants réactionnaires. C'est ça, plus ou moins financé par l'extrême droite, par la grande bourgeoisie et tout. Mais il y a vraiment une conciliation, il y a un écosystème qui travaillent en réseau, où on commence sur une chaîne, on finit en une autre.
Exactement.
On commence youtubeur, petit youtubeur indépendant, et on finit par avoir un créneau sur Frontière, ou je sais pas, Franc-Tireur, ou même si c'est pas le la même chose, mais ou Europe 1. Et donc il y a une professionnalisation d'un réseau militant, autodidacte, auto-formé et très radicaux.
Ouais, oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a un écosystème. Au départ, la fachosphère, c'est un tout petit truc qui est totalement à l'écart et ostratisé par la presse mainstream, et ça a tellement grossi avec Bolloré, hein, très clairement, mais aussi avec Valeurs Actuelles. Enfin, c'est surtout Bolloré qui en a donné une caisse de raison, c'est énorme. Ça grossit tellement qu'on se demande, ça va pas devenir la presse mainstream, en fait. Parce que même la presse mainstream telle que BFM ou LCI, ils courent un peu après, ils voient l'audience, on voit qu'apparaissent des chroniqueurs qui viennent de l'Incorrect ou de Valeurs Actuelles, etc., qui sont pas des journalistes reconnus pour leur savoir-faire journalistique, mais bon, on se dit, faut en donner un peu à la fachosphère, à la réacosphère, parce que c'est ça qui marche. Et effectivement, tu peux maintenant faire une carrière journalistique dans des médias extrême droite. Ce qui était impossible avant. Moi, quand j'ai commencé le journaliste, il y a longtemps, hein, c'est une trentaine d'années, t'avais quoi à l'extrême droite? T'avais Minute, qui était une feuille de chou, lu par pas grand monde, présent. Bon, c'est pareil, c'était des petits trucs, il n'y avait pas encore Internet. Hein, c'est du papier, t'avais quasiment rien. Donc, tu pouvais pas faire carrière journalistique là-dedans. T'avais trois pauvres journaux qui relevaient presque du fanzine. Hein, là, tu peux, entre Valeurs Actuelles, Frontières, L'Incorrect, Boulevard Voltaire, Le Figaro Vox, c'est autre chose, mais qui, je parle pas du Figaro en général, hein, mais non, le Figaro Vox, est en train de s'extrême droitiser, qui est une des tendances du Figaro, j'appelle ça Figaro Canal Zemmour, hein, et il y a une autre tendance qui s'y oppose, hein, attention, je fais pas l'amalgame.
Oui, c'est vrai.
Oui, il faut le dire aussi, mais cette tendance Figaro Vox, bon, Eugénie Bastier, Alexandre Delvecchio, etc., disons, sont très réactionnaires, pour pas dire d'extrêmement, en tout cas très réactionnaires. Et donc, c'est News, Europe 1, le JDD, JD News, maintenant, c'est pas mal. Il y a de quoi faire une petite carrière en passant effectivement de l'un à l'autre. Il y a un écosystème qui, en volume, est assez important, quoi. Et avant, c'était pas possible. Alors, il y a même eu, l'extrême droite a créé une école de journalisme, en tout cas une formation de journalisme qui s'appelle l'Institut Libre de Journalisme. Alors, il y a deux choses, hein. Ça a quelques années. Ça a été fait plus ou moins sous la houlette de, je sais plus son prénom, mais Sterrin, Pierre-Edouard Sterrin. Donc, il y a un milliardaire, beaucoup moins riche que Bolloré, mais enfin, il dépasse quand même largement le milliard, donc c'est déjà pas mal. Qui est un ultra réactionnaire catho tradi plus, qui a élaboré d'ailleurs tout un programme, une stratégie pour que le Rassemblement
National, le projet Périclès,
le plan Périclès
pour 300 municipalités, pour l'extrême droite,
en 2026.
Oui, c'est
son objectif, c'est ça.
Voilà, c'est ça pour préparer la prise du pouvoir en 2027. Donc c'est quelqu'un ouvertement qui souhaite l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, qui a failli racheter, c'est parce que je crois que c'est l'Humanité d'ailleurs qui l'a sorti, cette histoire de Périclès, il me semble.
Absolument, l'été dernier.
Et bravo à eux, d'ailleurs l'Humanité ça améliore beaucoup, je trouve, au passage, je fais pas mal d'enquêtes et ça devient très bien. Non, franchement,
non, mais c'est vrai.
Je le dis, ils ont sorti. Et c'est parce qu'il y a eu, parce que cette affaire Périclès a été révélée, que ça a empêché Sterrin d'acheter Marianne. Parce que c'était quasiment fait. Donc ils ont lancé cet institut libre de journalisme. Bon, on voit après où ils vont travailler. Hein. Les gens, c'est tous les médias qu'on a cités. Et là, c'est pas uniquement la fachosphère, mais c'est le grand patronat médiatique, on va dire. Donc ça comprend les Pinault, Arnaud, etc. Qui ont racheté l'ESJ, École supérieure de journalisme de Paris. À pas confondre avec celle de Lille. Hein. Il y a une confusion parce que celle de Lille est vraiment la numéro un des écoles. C'est comme une grande école de journalisme et tout. L'ESJ est une école, tout à fait moyenne, qui est pas reconnue par l'État ni par la profession, je crois. Mais enfin, voilà, il y a cette volonté de moi-même, je donne des cours dans une école de journalisme. Et quand j'ai 30 élèves et que je vois qu'il y en a 5 qui font leur alternance soit Frontières, soit à Valeurs Actuelles. Ouais, ouais, ça fait tout drôle, hein, parce que moi, j'ai fait l'école de journalisme il y a longtemps, le CFJ, enfin, c'était même pas pensable. Enfin, celui qui votait PS était un affreux social traître. Enfin, c'était vraiment, on était vraiment très gauchistes. Enfin, c'était ça. Au départ, le journalisme, c'est vrai que ça, ils ont pas tort, hein, quand ils disent que c'est un milieu qui leur est pas favorable. Les journalistes, en général, traditionnellement, viennent plutôt de milieux de gauche, plus ou moins modérés, plus ou moins radicaux, mais en tout cas, l'extrême droite y était quasiment absente, sauf dans certains médias très spécifiques, et c'est en train de gagner même les... Il y a des jeunes journalistes d'extrême droite, maintenant, qui présentent bien, qui n'ont pas des têtes de fachos, c'est pas des skinheads, c'est pas la caricature qu'on en main, qui sont bien sous tout rapport, qui ont l'air sympas, là, comme le Jordan Florentin, il n'a pas l'air sympa, mais genre, non, il met sa casquette à l'envers, comme ouais, avec sa casquette, il fait un peu branché, etc. T'as toute une génération hein, qui est en train d'émerger. Moi, je vois comment ça a changé dans l'écosystème des médias, effectivement. Enfin, moi, c'était... Pour moi, c'était, enfin, quelqu'un d'extrême droite ne pouvait pas, franchement, faire carrière dans le journalisme avant, ou alors était cantonné vraiment à des médias très spécifiques. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Il y en a même, je pense, qui choisissent. On en arrive là, c'est qu'il y en a même qui peuvent être tentés de choisir même l'extrême droite par pur opportunisme, même s'ils sont pas fachos, mais qui se disent, c'est peut-être pas plus mal pour mon plan de carrière. Je pense par exemple à Laurence Ferrari, qui à mon avis est quelqu'un de bon conservatrice mais pas plus que ça, qui n'a jamais été connu pour avoir des opinions ou des penchants d'extrême droite, mais qui clairement à mon avis par pur opportunisme fait le choix d'abonder en ce sens et son émission est un peu plus modérée que les autres qu'on voit dans CNews, mais enfin on entend quand même des choses, y compris dans certains de ses éditos à elle, qui sont d'une violence incroyable et qui on a l'impression qu'elle donne des gages à Bolloré, et je pense franchement que c'est purement pour sa carrière, c'est pas...
Pour rebondir très rapidement, dans ce projet de carrière du journalisme d'extrême droite, il y a deux choses. Déjà, ça fait des bons cadres. C'est des gens qui savent écrire.
C'est vrai, c'est vrai.
Ils savent écrire, ils ont des contacts, ils ont un réseau, ils ont du terrain, ils connaissent l'ennemi, entre guillemets, voilà. Et en même temps, c'est un débouché militant.
Ouais. Ça peut aussi faire salarier des gens.
C'est
hein.
ça. Exactement.
J'accuse pas d'emploi. Non, mais c'est vrai que c'est toujours pratique de pouvoir recaser
de vivre
des gens.
De sa militance.
Voilà. Bah, on peut prendre par exemple un exemple. C'est pratique quand t'es un militant néo-nazi. Tu vas faire le zozo en Ukraine et après tu fais un beau grand reportage en frontière. C'est arrivé. Hein. Il y a un reportage signé d'ailleurs de son vrai nom par un militant néo-nazi du groupe Les Zouaves. Donc, qui est l'équivalent du GUD, qui avait été, arrêté lors d'une manif gilet jaune, a retrouvé des trucs nazis chez lui et tout. Quand je dis néo-nazi, c'est pas une manière de parler. Réellement, bon, ça c'est cas extrême, mais on peut d'ailleurs, à propos de, pour se recaser facilement pour le boulot, là je passe un peu du coq à l'âne, mais Marc de Cacret, le chef du groupuscule Les Zouaves et du GUD, en fait, maintenant, chef du GUD, qui a été recasé pour faire la sécurité de la résidence du milliardaire Vincent Bolloré sur son île.
L'île de Locke. Parce qu'il possède l'île, hein, en fait.
Possède l'île, oui.
C'est à lui.
Hein. Bon, t'es pas très étonné, les îles privées, on sait que ça. C'est, voilà. Mais en tout cas, voilà, le type, bah, c'est pratique hein, pour trouver un salaire. C'est là aussi, là je sors un peu des médias, mais où les militants et les activistes d'extrême droite ont un avantage, à la limite, évident, sur les antifas, c'est qu'ils sortent, ils ont des relations dans des milieux influents, notables, etc. Donc ils vont trouver plus facilement un avocat, plus facilement un boulot, plus ou moins de complaisance, etc. Et c'est effectivement un peu pareil avec les médias. Il y a des débouchés maintenant, il y a de quoi faire bosser du monde. Puis alors, médias, ça peut vouloir dire aussi, si c'est des milieux de la pub, je sais pas, enfin faire bosser comme maquettiste, graphiste, je sais pas trop quoi.
Monteur,
voilà. Présenter une émission, enfin on voit des gens qui sont pas du tout journalistes qui présentent des émissions maintenant sur Frontières. Il y a un type, je sais plus son nom, Schnoro, enfin c'est un nom arménien, qui est un type épouvantable, qui avait montré la photo du conseil municipal de je sais plus quelle ville dans le 9-3 oui. En disant regardez, il n'y a pas un français, mais comment vous voyez que visuellement il n'y a pas un français, vous visuellement vous reconnaissez, bon voilà, que c'est vraiment purement, et le type voilà présente une matinale, enfin c'est vrai que c'est assez pratique quoi.
Est-ce que c'était pas le même qui avait fait
Borokian, un nom comme ça, je sais plus,
tout un délire sur les compagnons de la libération en disant que c'était pas les noirs et les arabes qui avaient libéré la France, alors que quand
ouais, je sais pas, c'est possible. Il fait des délires dans ce genre où il est assez obsessionnel. sur la. Oui, oui. Enfin, voilà, le gars qui a rien de journaliste, mais bon, il a. Alors, je sais pas combien il est payé, mais bon, il a son petit boulot. Il présente la matinale. Ça. J'ai vu, c'est la matinale de machin sur.
Garen Schnorokian.
Hein. Voilà, Garen Schnorokian. Voilà, bah, c'est ça.
Compagnon de route de Zemmour de longue date.
Oui, exactement.
Lui, alors,
exactement.
C'est bien lui. Oui, oui. C'est exactement. Sachant que historiquement, quand on regarde dans les Compagnons de la Libération, il y avait quand même. Enfin, j'ai pas les statistiques, mais énormément de personnes noires arabes venant des militaires durant des troupes coloniales. Enfin,
bien sûr. Oui.
Mais tout ce délire, en fait, de très rapidement, parce que je m'y connais un peu, des réseaux, d'une partie des réseaux arméniens qui s'est restructuré avec Reconquête notamment sur la bataille de la guerre civilisationnelle, hein, vraiment du clash.
C'est une guerre d'affrontement entre christianisme et islam. En tout cas, selon eux, c'est vu comme ça. C'est beaucoup plus compliqué, bien sûr.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on pense notamment aux camarades du Haut-Karabakh qui ont dû.
Où Zemmour s'était rendu d'ailleurs. Premier déplacement, je crois, pendant sa campagne présidentielle à l'étranger.
Et donc, on parle des 120 000 et 130 000 déplacés de force, donc crime contre l'humanité. Bien sûr, je me permets parce qu'on parle si peu souvent d'eux et c'est pas anecdotique. C'est pas une critique de tous les camarades, bien sûr, mais de penser un peu à eux. Et donc, dans cette idée-là, en fait, c'est de matérialiser. Ces concepts racistes que sont le grand remplacement, ils vont utiliser ils ont toute une grille de lecture idéologique, qu'elle soit internationale ou nationale, qui vont mobiliser par leur expérience personnelle, qui vont déformer, utiliser, tokeniser des gens. Je pense par exemple vraiment cette échelle raciale qui permet d'utiliser des personnes plus ou moins racisées contre d'autres personnes et tout. C'est vraiment la logique coloniale, hein, néocoloniale.
Complètement, oui, tout à fait.
Et du coup, toute cette problématique-là... qui mettent en place, et on retrouve ça dans Frontières beaucoup, ce truc de... ils ont un côté un peu marxisant dans l'idée de mettre en lumière des structures. Voilà, il y a des structures qui amènent, du coup, qui produisent ça, et on cherche à visibiliser... tout en ayant vraiment un agenda réactionnaire, complotiste, nationaliste et tout. Et on a tout un travail à faire de toutes les gauches. Hein. Il n'y a pas de souci de faire fond commun, de se coordonner pour arriver, en tout cas sur la bataille culturelle, la gagner. On n'est pas si mauvais que ça, mais ils sont en train de devenir de plus en plus bons, en fait. C'est ça le souci.
Bah, ils ont évidemment l'avantage de soutiens financiers qui peuvent être importants. Et ce qui est de plus en plus inquiétant, d'ailleurs, c'est que de plus en plus, y compris le grand patronat, quasiment le CAC 40, enfin, est en train de se droitiser, voire de s'extrême-droitiser, ce qui n'était quand même pas le cas avant. Le grand patronat était traditionnellement hostile à l'extrême-droite, en tout cas version Jean-Marie Le Pen et version Marine Le Pen. Mais on voit ce phénomène, bon, aux États-Unis avec Musk et tout ça, je vais pas revenir là-dessus, mais effectivement, ils ont aussi de plus en plus de moyens financiers, c'est pour ça qu'ils prennent de l'avance. Et aussi, je crois que, parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est réseaux sociaux, mais ils ont pris beaucoup d'avance sur les réseaux sociaux. Faut pas oublier que le Front National est le premier parti, je crois, dès 98, qui a un site internet.
Même avant, hein, pour moi, c'est peut-être même 95, 96, peut-être. Je sais plus, mais c'est
au tout début d'internet. Enfin, c'est effectivement au tout début, je sais plus la date, mais bon, voilà, parce qu'avant 2000, c'est pas grand chose, hein, internet.
Non.
C'est eux qui fondent les premiers sites, ils appellent ça de réinformation. C'est intéressant, la dialectique. Oui. Information, hein, ça veut dire des informations. Enfin, en gros, on va vous réinformer. Ils aiment beaucoup toujours les renouveau, reconquête. Ils aiment beaucoup ça, l'extrême droite. Et ils avaient fait les premiers sites de réinformation. Je crois que le premier, c'est F de Souche, les tout premiers. Et ils sont emparés aussi de tout ce qui est youtubeurs, influenceurs, les papacitos, les machins qui ont repris des codes d'humour un peu à la Canal Plus ancienne manière, Groland, Guignol, etc. Ils ont repris des codes un peu de gauche en faisant de l'humour, on apprécie pas, mais enfin moi j'apprécie pas, mais pour faire passer en fait la pilule de discours d'extrême droite totalement abjecte. Et là ils ont pris, parce que comme ils étaient ostracisés dans le reste des médias, il a fallu qu'ils se réinventent et que la gauche, c'est, qui avait, ça c'est vrai, et qui a encore un peu, mais de moins en moins, et qui est en train de la perdre, une domination culturelle, bah, elle avait moins besoin de se réinventer, d'être imaginative. Alors, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitch, moi je suis pas un spécialiste, mais je crois que la gauche est en train, tu connais mieux que moi, sûrement, est en train de reprendre un peu du poil de la bête, mais c'est vrai que la gauche a pris du retard là-dessus, j'ai l'impression.
Non. On va dire que les deux projets, toute la gauche n'est pas révolutionnaire, mais les deux projets en fait de société, que ce soit au niveau de la politique pure et dure ou que ce soit au niveau de la militance, on va dire médiatique et culturelle, existent. C'est ça qui est très particulier, je pense, en France, c'est que on a vraiment deux modèles révolutionnaires qui existent conjointement dans le même pays.
Ouais.
Modèle d'extrême droite et un modèle de gauche, on va dire libérale à extrême gauche. On a chacun nos institutions révolutionnaires, nos médias plus ou moins révolutionnaires ou non. On a nos militants plus ou moins révolutionnaires ou non. Nos réseaux financiers. Alors bien sûr, on appelle beaucoup, notamment sur les médias, au financement participatif, aux dons. Je pense à Twitch. Donc pour parler de Twitch, on a Dani Eraz.
Ouais, Dani Eraz.
L'humanité vient de sortir sa chaîne Twitch.
Je sais pas. D'accord.
Ouais, qui est assez bien. Mais c'est là où on a vu tourner l'extrait avec Marine Tondelier qui le prend assez mal sur quand on lui propose son projet politique et tout. Blast, vous avez Usul Lumni et Modi, je suis régulièrement, mais et du coup on a c'est vraiment des militants dans les deux cas, c'est-à-dire ils se répondent, ils font ce qu'on appelle des réacs. C'est-à-dire ils regardent les vidéos les uns des autres et ils vont réagir et pointer du doigt les problèmes. Et on a vraiment une organisation de la guerre culturelle, en tout cas numérique, qui s'organise, sachant que sur l'extrême droite, ils bénéficient, et ça c'est peut-être une opinion personnelle et c'est pas définitif, mais ils utilisent parfois, alors je parle pas forcément de frontières et tout, mais plus vraiment des gens proches de Musk et tout, tout le potentiel du monde numérique, c'est-à-dire les grandes campagnes d'influence de Twitter. On voit souvent les cartographies d'influence des élections pendant les législatives. J'ai oublié le nom de cette personne, en tout cas il fait des publications, si vous tapez cartographie législative AFD, en tout cas maintenant, ou législative de 2024 sur les réseaux sociaux, vous le trouverez, mais il montrait que pendant les campagnes législatives de 2024, il y avait des centaines de milliers de bots, donc comptes Twitter, qui ont été créés à l'avance, donc il y a une planification, ce qui a amené à la diffusion de contenu en chaîne, notamment amenant vers Reconquête, et qui a permis un visionnage de, je crois qu'il chiffrait à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors on peut se dire, c'est pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est le processus de radicalisation. C'est-à-dire que c'est pas le plus important que ce soit, je crois qu'il disait entre 60 000 et 70 000. Mais électoralement, c'est déjà des gens qui vont voter encore plus à droite qu'ils ne votaient précédemment, et en plus c'est des gens qui vont militer numériquement, qui vont reprendre le message, et donc il y a un effet boule de neige, et c'est peut-être ça ce qui est problématique pour nous, c'est qu'on a du mal à provoquer les mêmes effets boule de neige alors qu'on est présent sur Internet, dans les médias aussi, et même qu'on n'utilise pas totalement les mêmes techniques, en tout cas pour rester bien sûr dans la légalité, peut-être pas influencer, mais signaler en masse peut-être les bots ou ce genre de contenu, sans tomber bien sûr dans la censure. Parce que les bots n'ont pas un droit de liberté d'expression.
Non, absolument, c'est les humains normalement.
Contrairement aux humains. Et du coup, voilà, et toute cette problématique-là de... C'est compliqué parce qu'en même temps, les gens sont fatigués. On est dans des périodes qui s'enchaînent médiatiquement, où vraiment on est fatigué de suivre l'information, et en même temps politiquement, de toujours rebondir, de toujours être présent sur tellement de choses. Et en même temps, il y a pas assez de monde dans le monde militant, et en même temps c'est un monde dur.
Mais parce que c'est les armes sont un peu inégales quand même, ils ont des algorithmes, ils ont des moyens financiers derrière, il doit y avoir des entreprises qui savent faire ça, enfin ils ont l'aide, enfin que vous faites ça avec vos petites mains plus.
On a aussi les capacités techniques.
Mais pas financières, enfin il y a pas le même.
Je pense que c'est
un problème.
Ça je suis d'accord, mais la capacité technique sur Internet peut pallier à la capacité financière, enfin acheter des bottes,
ça ouais. c'est pas cher. Ouais, enfin, ouais, ouais, d'accord.
Peut-être qu'il y a un manque de, je pense, un peu de vision. Sans dénigrer ce que font les camarades, enfin tous les camarades, quelle que soit leur tendance à gauche, qui ont un vrai militantisme, que ce soit dans le monde physique et le monde d'Internet, c'est le même monde, mais que ce soit IRL ou alors sur Internet, qui partagent du contenu, qui financent des médias, qui relaient et tout, qui vont faire des débats de plusieurs jours sur les différents. Il y a vraiment ça, mais voilà, c'était juste, juste pour redonner une perspective. Ouais.
Non, mais c'est que c'est.
Qui semble se passer actuellement.
Enfin, moi, après, je suis pas dans les trucs numériques, mais je pense que ça doit être assez épuisant aussi cet activisme numérique. Enfin, on doit y passer un temps fou, ça doit être usant aussi. Oui. Quand, en face, il y a quand même des moyens financiers qui doivent permettre d'économiser un peu ces petits bras, quoi. C'est ça
c'est ça qui est compliqué. C'est l'automatisation.
C'est l'automatisation, absolument. Et là, pour ça d'ailleurs, qu'en fait, d'une manière générale, l'extrême droite critique toujours. Tout ce qui régule tout ça, l'ARCOM, mais aussi au niveau institutionnel, hein, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, tout ça, ça serait à supprimer, ils ne sont pas élus, etc. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'en dérégulant totalement, là, on va vers un truc un peu libertarien, bah, si on dérégule totalement, eux, ils seront en position de force, évidemment, bien puisque la puissance financière, c'est la puissance tout court, hein, elle est de leur côté. S'il n'y a aucune instance de régulation, bah, la guerre, ils la gagnent. Hein.
Exactement.
C'est ça, le truc. C'est...
S'il n'y a plus d'État, il n'y a plus que la sauvagerie capitaliste,
ben voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Donc, c'est le premier truc qu'ils veulent faire, d'ailleurs. Hein. Effectivement, leur cible, c'est l'ARCOM, le service public de l'audiovisuel, tout ce qui est un petit peu régulé et qui permet pas aux puissances financières de s'exprimer pleinement, librement, entre guillemets, ils emploient le mot liberté, et d'exprimer librement leurs préférences, leurs choix, etc.
Puis de faire respecter le droit, faut pas oublier qu'on est encore en état de droit.
Mais ça, le droit, il voudrait qu'il y ait plus, de droit, hein, que ça soit le droit, voilà, c'est le plus fort qui a le droit. Enfin,
je suis bien d'accord.
Si on va plus loin, Milei en Argentine, il va loin, il est même pour. Il le met pas en place parce que c'est quand même un peu compliqué à mettre en place une fois que t'es à la tête d'un État, mais lui, il est pour une justice privée, quoi, en fait. Hein. Ouais, des tribunaux privés, machin, enfin, ça peut aller très très loin. En gros, tout ce qui est régulation et qui empêche le libre jeu de la guerre entre puissances financières, etc., et pour eux, ça devrait pas exister. Il devrait pas y avoir d'arbitre, aucune instance de régulation, et comme ça, ils seraient sûrs de gagner. En gros, c'est un peu ça, le truc. Hein.
Oui, mais c'est déjà, je crois que pour donner une idée, enfin, et c'est un peu compliqué parfois de le faire comprendre, et encore, c'est mon point de vue, mais les néo-fascistes, les idées et la politique est tellement présente qu'elle est même déjà dans le gouvernement, y compris même des gens de Renaissance se sont radicalisés vers ça, et je crois qu'il y a une des agences de régulation écologique en France qui a eu des sérieux problèmes, où je crois qu'il va disparaître bientôt. Enfin, je sais plus, à vérifier, mais il y avait une attaque sur ça. Je sais plus. Mais en tout cas, cette idée de, par la dé-